Vacances. Le voici arrivé, le moment tant attendu.
Quand faut y aller. Merde.
Il y a eu du soleil, alors je suis descendu.
Il y a du soleil, il y a des nanas.
Cinérama.
Je vais vous tenir au courant des mesures qu'on va prendre.
À mon avis, il y aura des ouvertures.
Génial.
Je ne m'attarderai pas en vaine palabre, je serai bref et précis, je ferai feu à bout portant.
Tu pars pas en vacances?
Non, pourquoi?
Pas possible!
Nous dépendons énormément de la saison d'été, c'est vital.
C'est le seul point noir au tableau.
Je m'en fous!
Tout l'été, Cinérama, blind test et actualité du cinéma.
Ouais, jamais très original dans ces moments-là, tu sais.
This is Cinérama.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama pour l'avant-dernière émission de cet été. Bonjour Guillaume.
Bonjour Vincent.
Alors, tu vas en finir avec ta série sur les femmes compositrices.
C'est ça, et je vais parler de la première partie de carrière de Shirley Walker aujourd'hui.
Et tu nous parles aussi bien d'un plus grand réalisateur.
Oui, mais qui n'est pas à l'abri de nous faire des produits assez inénarrables. Vous allez découvrir pourquoi quand je vais vous parler d'Hypnotique.
Marine, elle, va revenir sur le cinéma de genre conjugué au féminin, puisqu'elle a eu l'occasion de participer à l'élaboration d'un ouvrage sur la question. Mais nous commençons cette émission avec la Palme d'Or du Festival de Cannes 2023. C'est le film Anatomie d'une chute de Justine Triet qui mérite largement son prix.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
En recevant la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute, Justine Triet est devenue seulement la troisième femme à obtenir la récompense suprême du Festival de Cannes, après Jane Campion pour La leçon de piano et plus proche de nous, Julia Ducournau pour Titane. Alors évidemment, les probabilités étaient plus grandes pour une femme d'obtenir la Palme d'Or, puisqu'elles étaient 8 réalisatrices à concourir en 2023, mais pour avoir vu plus de la moitié de la compétition cannoise cette année, eh bien cette Palme d'Or est largement méritée, tant Anatomie d'une chute coche tous les éléments de l'œuvre qui fait cinéma. Il y a d'abord un scénario assez simple et bien écrit, une mise en scène audacieuse pour un film de procès et des acteurs remarquables. Ce trio concourt à rendre les 2h30 du film complètement indolores. Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Alors on l'apprendra, c'était le souhait du père de famille de renouer avec sa région d'enfance alors que le couple s'était rencontré à Londres. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Cette mort intervient de manière soudaine alors qu'on apprend la présence de cet homme au travers de son comportement hors champ. Il met la musique très fort pour signifier quelque chose à sa femme, une écrivaine qui s'entretient tranquillement au rez-de-chaussée du chalet avec une jeune femme qui veut faire une thèse sur elle. Cette musique, elle aurait tout pour être agréable, mais elle est agressive car elle prend tout l'espace en cachant les êtres et les réactions. Quelque chose semble jeté, quelque chose semble planer sur le couple. Quelques minutes plus tard, eh bien, le mari trépasse. S'est-il défenestré volontairement? Y a-t-il eu un accident? L'a-t-on poussé? Un juge d'instruction mène l'enquête et le fils est mis à contribution.
Tu m'as dit que t'avais entendu tes parents au moment où t'es sorti de la maison, c'est ça?
En fait, j'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça faisait...
Ah oui, mais non, si t'avais pas les mots, du coup, tu peux pas savoir si c'était une dispute ou pas.
Enfin, je sais ce que j'ai entendu.
So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death.
Stop. I did not kill him.
That's not the point.
Le film ne tient pas à répondre de la culpabilité de l'épouse ou de la mère, non, le projet va bien au-delà. Justine Triet, au travers de ce portrait de femme, nous emmène dans une salle d'audience où cette femme va devoir exposer son intimité, où le procureur, l'impeccable Antoine Reynards, va disséquer le couple en forçant toujours le trait, n'hésitant pas, et c'est son rôle, à appuyer où ça fait mal. Telle relation extra-conjugale, assumée ou non, les aspirations du mari à retrouver l'inspiration, car lui aussi est écrivain mais a bien moins de succès que son épouse.
Il parle de tromperie.
I was honest about it.
Mais vous l'avez pas été l'année de sa mort avec cette fille avec qui vous l'avez trompée, pourquoi? Il y a quand même quelque chose d'un peu étrange dans cette situation. Vous admettez qu'il était jaloux?
Non, I don't know.
Allez, écoutez-vous, on a l'impression que vous l'avez trompé continuellement.
Quand il commence à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller.
Tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux?
Non.
Alors évidemment, il y a l'affaire judiciaire, mais celle-ci ne peut se dénouer sans la dissection donc de la vie du couple. Comment il s'est rencontré, comment il s'est aimé et comment il s'est déchiré. L'avantage de ce procédé, la mise à nu dans un tribunal, fait qu'il n'y a pas de pathos.
Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il fait référence quand il parle du pillage de son œuvre?
That's not true.
Vous aviez déjà frappé votre mari?
Non.
Non, jamais? C'est bien ce qui s'est passé.
You're violent!
You're violent!
les entendre s'ils parlaient comme maman.
J'ai confondu.
T'as confondu.
I'm innocent, you know that, right?
Au-delà de la mécanique d'une vérité qui devrait ou non éclater, si la mort n'est pas une surprise pour le spectateur, je laisse le suspense hein, sur l'issue du procès, bien évidemment, mais l'essentiel de toute façon n'est pas là. Dans les procès, il y a des témoins. L'enfant du couple, lui, n'a rien vu. Hein. Il ne sait pas si son père s'est suicidé ou si sa mère l'a poussé. Il pourrait ne pas assister à tous les débats hein, du procès d'assises, mais il prend le parti de tout apprendre, du haut de ses 11 ans, sur ses parents, sur l'amour, sur la haine, sur la vie. C'est le plus grand témoin de ce procès, excepté qu'il est témoin finalement à rebours de son histoire familiale. La mise en scène fait l'effort d'appuyer autant qu'elle peut ce point de vue, alors qu'il s'agisse de Sandra Hüller, l'accusée, hein, qui aurait pu avoir le prix d'interprétation à Cannes, de l'avocat joué par un Swan Harlow loin des grands effets, ou de l'enfant, tout en nuances, l'interprétation est au diapason d'un film qui avance avec assurance et sans jamais s'écarter de l'émotion. Anatomie d'une chute, formidable palme d'or du Festival de Cannes 2023 de Justine Triet, est en salle depuis le 19 août. Qu'est-ce que le cinéma de genre en France aujourd'hui? Qui sont aujourd'hui les femmes qui font le cinéma de genre et en quoi leur statut a évolué? Marine nous en parle de ce sujet d'autant plus facilement qu'elle s'appuie sur le livre « Le cinéma de genre au féminin », un ouvrage qu'elle a coécrit avec Julien Richard Thompson, paru aux éditions Jagarundi.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Comment se porte le cinéma de genre français et où en est-on de la place des réalisatrices au sein du 7e art dans l'Hexagone et plus précisément dans le cinéma de genre? Eh bien déjà, le cinéma de genre ne se porte pas si mal. Il n'a même jamais été autant représenté. Le CNC commence enfin à le considérer non pas comme l'enfant sauvage de la production française, mais comme un cinéma à défendre et à encourager financièrement. Il donne par exemple à présent 500 000 euros de subventions à 3 films de genre tous les ans et de toute évidence la Palme d'Or obtenue par Julia Ducournau en 2021 pour le film Titane a beaucoup aidé à cette reconnaissance. Et surtout, eh bien, si la place du cinéma de genre grandit, il faut aussi lui reconnaître que cet essor s'est accompagné d'une féminisation de la profession. Cependant, soyons réalistes, si aujourd'hui les classes des écoles de cinéma comptent autant d'étudiantes que d'étudiants, pour le moment, les femmes diplômées en cinéma ont toujours plus de mal que les hommes à se professionnaliser par la suite. Bien que le cinéma français soit celui qui compte le plus de cinéastes femmes, elle ne représente que, entre guillemets, un peu moins de 25% des cinéastes total, donc moins d'un quart. À Hollywood, on confie de plus en plus la réalisation de blockbusters qui s'apparentent parfois du cinéma de genre à des réalisatrices. Surtout, hein, on ne va pas se mentir, quand les films ont pour personnages centraux des femmes, mais qui pourrait finalement citer un nom de réalisatrice américaine qui a mis en scène un film grand public? Si l'on connaît le nom de Catherine Bigelow, si grâce au succès du film Barbie cet été, le grand public connaît également aujourd'hui Greta Gerwig, les réalisatrices américaines sont toujours plus ou moins invisibles. En France, malgré un effet tendance hein, que certains assimilent encore à une mode, les réalisatrices sont présentes mais peu médiatisées. Et surtout, les statistiques prouvent qu'on leur confie des budgets toujours moins importants que ceux alloués aux hommes pour faire leurs films. Et si des réalisatrices reçoivent un budget conséquent, elles auront beaucoup moins le droit à l'erreur que leurs collègues masculins. Prenons par exemple Marina Devane qui avait fait forte impression avec son premier film Dans ma peau, sorti en 2002, un film qu'elle-même ne considère pas comme appartenant véritablement au cinéma de genre, mais qui, de par son ambiguïté volontairement dérangeante, une thématique subversive, à savoir l'autophagie, et des parties pris esthétiques marquées peut tout à fait se réclamer du cinéma de Cronenberg. Forte de ce succès d'estime, la réalisatrice fera par la suite « Ne te retourne pas », un film fantastique très ambitieux avec Monica Bellucci et Sophie Marceau qui pâtira malheureusement de sa projection bâclée à Cannes et qui sera un échec retentissant, matinée de machisme.
J'ai fait plusieurs affiches pour la journée Woody Allen. Je sais pas quoi choisir. Merci.
Je préfère celle-là.
C'est quoi ces gribouillages? Qu'est-ce qui se passe avec l'appartement? Tu l'as pris en grippe?
Non, rien, je les ai fait machinalement.
Ça tournait l'obsession, cette table.
Et je sais pas où j'ai mis mon collier Bulgarie, tu sais pas.
Jeanne, tu me réponds?
Je vois des changements partout. La table, elle reste, partout. Même vos visages et vos yeux, tout change.
Tout change? Ça veut dire quoi?
Mais je sais pas où on est, là. Je connais pas cet appartement. Je reconnais des affaires, des meubles... Mais c'est pas nous. Et là, sur les photos, sur les vidéos... Je reconnais rien ni personne. C'est pas chez nous. C'est une autre famille. Dehors, ça va, hein. Mais... ici...
La réalisatrice à qui on avait donné un budget de 12 millions d'euros pour ce film ne fera ensuite plus de longs-métrages en France, si ce n'est avec un budget minime et en se mettant elle-même en scène. Appartenant à la même génération, Lucile Adilalilovitch n'a réalisé que 3 longs-métrages en 16 ans de carrière, freinés de son propre aveu par la recherche de financement. Longtemps complice de Gaspard Noé, elle aura eu bien davantage de mal que lui à faire produire ses films, souvent proches du conte noir. Innocence, son premier long-métrage, fut une coproduction européenne. Par la suite, il lui fallut 10 ans quand même pour trouver les financements nécessaires à Évolution, son deuxième long métrage.
Pourquoi je suis malade? Parce que tu arrives à un âge où ton corps se transforme et s'affaiblit.
Comme les lézards?
Oui, en quelque sorte. Comme les lézards ou comme les crabes. Quand ils mûlent, ils sont aussi très fragiles.
Et les étoiles de mer?
Elles se métamorphosent une seule fois à la naissance.
Et après?
Après, un nouveau cycle commence, une nouvelle vie. Allez, bois maintenant.
D'autres réalisatrices, comme Aurélia Mangin, qui elle est basée à La Réunion, doivent s'autoproduire. Ce fut le cas pour son premier film, Fornacis, qui a connu un succès d'estime en récoltant pas moins de 9 prix dans divers festivals, mais qu'elle a tourné sans aide. Peut-être comme Coralie Farja, hein, il faudrait partir de France pour avoir, en tant que femme dans le cinéma de genre, les moyens de ses ambitions. Coralie Farja, qui fut extrêmement remarquée avec son film Revenge, un très réjouissant revenge movie qui reprenait les codes de la série B, tout en étant pilotée par son regard de réalisatrice, un female gaze qui changeait, l'air de rien, radicalement les intentions du film.
Putain, on est mort, quelqu'un a dû passer, il a embarqué.
S'il n'est pas mort sur le coup, il est juste en train de crever un peu plus loin, c'est tout.
Bon, il est peut-être pas trop tard pour faire marche arrière. On l'amène à l'hôpital. On dit que c'est un accident. On fait jouer les avocats. Ils trouveront un truc. Ils trouvent toujours un truc. Ce sera toujours une
seule. On n'a peut-être personne. Et on n'est rien du tout. C'est quoi ton problème? Elle est seule. Elle a le ventre ouvert. On est 3, armés. Alors de quoi t'as peur? Tu sembles avoir des couilles quand tu t'es amusé avec elle. Alors ramasse-les. Et on descend la trouver.
Pour son deuxième film, Coralie Farja est donc partie à Hollywood tourner The Substance avec Demi Moore, Ray Liotta et Margaret Qualley. À noter que l'on a beaucoup reproché à Farja d'avoir une réalisation musclée mais un scénario trop mince pour son premier long métrage, ce qui, au pays des cinéphiles français, a tendance à être mal vu, surtout lorsque l'on est une femme.
Tu comptes me dire ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe?
Arrête tes manigances, ça me fait pas rire, Vicky.
Mes manigances?
Il y a une odeur infecte dans la chambre de Julia.
C'est pas moi.
Et le corbeau cuit que je viens de retrouver dans le jardin, c'est pas toi non plus? Ok, puni, pas de lac pour toi aujourd'hui.
Quoi?
Ouais, ton père t'emmènera chez Papou.
Non.
C'est pas toi qui décide. Fais bouillir des oiseaux maintenant. Je peux me changer. Je peux vous laisser ensemble 5 minutes.
Et en même temps, eh bien, lorsque vous réalisez un film comme Les 5 Diables, comme Léa Mésius, qui s'apparente au Elevated Genre en connectant cinéma fantastique et problématique sociale, puisque le film aborde aussi bien les boucles temporelles que les ravages du racisme, eh bien, vous risquez fort d'être accusé de, je cite, suivre une mode. Pour Pourtant, comme le dit la jeune femme elle-même, aujourd'hui, les réalisatrices en France qui font du cinéma de genre se comptent sur les doigts de la main. On ne peut pas donc parler de phénomène réellement. Mais sans doute que la nouvelle génération, dans laquelle on peut également compter Zoé Witok, réalisatrice du film Jumbo en 2019, mais aussi Joséphine Darcy Hopkins, qui après plusieurs courts-métrages très sombres et très remarqués, prépare son premier long, elle qui fut également scénariste pour Fabrice Duvels, sans doute eh bien, que cette nouvelle génération a de plus en plus envie de briser le carcan du naturalisme dans lequel le cinéma français a été longtemps enfermé.
J'ai vu un mort. Il est dans l'eau.
Où ça, dans l'eau ?
Dans la mer.
Menteur.
Marine nous parlait du cinéma de genre au féminin, puisque c'est le titre d'un ouvrage qu'elle a coécrit avec Julien Richard Thompson, paru aux éditions Jagarundi. Cet ouvrage propose des rencontres avec des réalisatrices françaises de tous âges et d'horizons différents qui bousculent les codes. Restons avec les femmes, cette fois-ci compositrices. On en termine avec la série entamée bien au début de cet été. Et là, nous parlons de Shirley Walker. C'est la première partie de l'émission consacrée à Shirley Walker.
Merci monsieur, c'était très bien. C'était très bien. C'est de la bouillie tout ça.
Cinérama.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons.
Eh oui, bah parce qu'on est un petit peu comme Tom Cruise à Cinérama. On va conclure notre saga de l'été, bah pas par une, mais deux parties. Bah, j'ai envie de dire, c'est bien normal, parce qu'on termine en apothéose avec l'une des femmes les plus respectées de la profession et des spectateurs, l'américaine Shirley Walker, qui a une sacrée carrière à son actif. Alors Shirley Walker, c'est qui ? Bah, Shirley Walker, bah, du haut de ses plus de 40 années de carrière, bah, elle fut l'une des premières femmes compositrices à officier sur des productions majeures hollywoodiennes et à imposer son nom sur l'affiche. Alors touche à tout, hein, prodige musical, hein. Sitôt diplômée, elle est embauchée pour jouer des synthés sur le score de Carmine Coppola pour Apocalypse Now, excusez du peu. Formant à l'orchestration des futurs grands noms de l'industrie comme Danny Elfman ou Hans Zimmer, hein, elle co-compose à plusieurs BO qui vont marquer les cinéphiles. Alors on commence par un extrait d'un petit film de petit monstre qui surfait hein, sur la vague de Gremlins, Ghoulies, une musique co-écrite avec Richard Band en 1985. Je pense que là, à l'écoute, hein, il est clair hein, que l'on comprend d'où vient une bonne partie du son de Danny Elfman hein, lorsque l'on écoute cette partition de Ghoulies. Hein, après de belles collaborations, hein, quelques scores signés hein, toute seule et un passage assez exceptionnel à la télévision hein, sur les séries The Flash et Batman The Animated Series, hein, elle met en musique mais pour la première fois un film de John Carpenter en 1992, à peu près la seule chose qui satisfera le réalisateur dans une production pour un studio qui peine à aller dans son sens. Et si la musique bah, des aventures de l'homme invisible ressemble peu à ce que Carpenter fait d'habitude quand c'est lui bah, qui compose ses propres BO, il sera, comme les spectateurs, bah, très heureux du travail de Shirley Walker. On écoute un extrait du très beau thème principal. Shirley Walker ne va pas illustrer Batman que lors de son passage animé à la télévision, elle va aussi l'accompagner sur grand écran. On se quitte sur ce que j'estime être l'un de ses chefs-d'œuvre absolus, la musique du générique du début de Batman contre le fantôme masqué, réalisé par les géniaux de Eric Randomski et Bruce Timm en 93. Personnellement, c'est par ce morceau que j'ai découvert son nom à l'âge de 8 ans.
On se retrouve la semaine prochaine avec la deuxième partie de cette chronique consacrée à Shirley Walker, donc pour achever eh bien, cette série sur les femmes compositrices. Présentée en séance de minuit au Festival de Cannes 2023, nous parlons maintenant de Hypnotic de Robert Rodriguez.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Qu'est-ce que vous voyez? Votre fille? Le parc?
J'ai eu un moment d'inattention. Juste une seconde.
Alors, on connaissait les suites, les préquels, les spin-offs, les remakes, les reboots, les legacy quels. On savait que les studios avides de donner à manger à des hordes de fans qui, au fond, cherchent à consommer ce qu'ils aiment et de façon industrielle, prenaient des notes sur les forums pour composer leur scénario. Coucou, la dernière trilogie Star Wars. On se doute que le développement de l'intelligence artificielle va aussi créer une nouvelle race de scénarios, mais Robert Rodriguez a trouvé mieux, c'est-à-dire s'inspirer d'un court extrait d'une scène célèbre pour développer toute une histoire. On parlait de Star Wars il y a quelques secondes, c'est le cas ici, car Hypnotic, le dernier film du Texan le plus mexicain des États-Unis, base son intrigue sur la fameuse scène où les Stormtroopers arrêtent Obi-Wan Kenobi en vue de l'interroger et qui voit ce dernier arriver à se sortir de la panade grâce à la force et leur fait croire d'un geste de la main et beaucoup de manipulation mentale que ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez. Donc voilà pour l'intrigue d'Hypnotic. Déterminé à retrouver sa fille, le détective Danny Rourke enquête sur une série de braquages qui pourraient être liés à sa disparition. Mais les criminels qui poursuivent sont bien plus machiavéliques qu'ils ne l'imaginaient. Ils hypnotisent des innocents pour qu'ils commettent des crimes contre leur volonté. Alors personne ne semble à l'abri. Pour les déjouer, Rourke va devoir se méfier de tout le monde. Je précise, pour resituer l'importance de Star Wars dans le film dont on va parler, que Robert Rodriguez est l'un des réalisateurs derrière les séries Le Mandalorian et Le Livre de Boba Fett.
Je voudrais signaler un braquage de banque.
Est-ce qu'il y a de l'avion en ce moment?
Aujourd'hui.
Vous voyez ce type sur le banc?
Vous auriez du feu.
Il prépare quelque chose.
Il fait très chaud aujourd'hui. Une vraie fournaise.
Il fait chaud. Une vraie fournaise.
Il y a un coffre.
C'est la cible.
Le numéro 23.
Papa,
Ah, Robert Rodriguez. Alors, par où commencer, hein, quand comme moi ben, on a grandi, évolué en parallèle de la carrière du monsieur. Hein. Alors, il était une fois un jeune réalisateur qui en voulait, hein, ayant le cinéma dans la peau au point de servir de cobaye dans des laboratoires pharmaceutiques pour financer ses productions dépendantes. Il va se faire repérer avec le Fauché le Mariachi, qui sera vite refait, une fois adopté par Hollywood, hein, par le même Rodriguez sous le nom de Desperado. C'est excellent, hein, premier film d'action, hein, rendant autant hommage à la culture latine qu'au gunfight opératique de John Woo, va lui permettre d'enchaîner, en collaboration avec Quentin Tarantino, l'un des plus amusants, l'un des plus rock'n'roll et l'un des plus sanglants films fantastiques des années 90, le cultissime Une nuit en enfer. Alors passé un sympathique The Faculty, la dégringolade va être aussy incompréhensible que terrible. Les Spy Kids, les aventures de Sharkboy et Lava Girl, Sin City, l'imbitable Desperado 2, ne surnagera dans ce maelstrom d'horreur en 24 images par seconde qu'un planète terreur revenant un peu aux racines gore et décomplexées d'Une nuit en enfer. Car, entre-temps, ben, l'ancien Golden Boy a découvert les facilités du cinéma numérique et va faire l'inverse de l'un de ses modèles, James Cameron, qui le prendra pourtant comme bouche-trou pour faire un Alita de piètre mémoire alors que tout le monde voulait que ce soit le roi du monde qui soit aux manettes. Bref, 20 années d'une esthétique du lait, de l'image tournée, éclairée, mise en musique et produite à la va comme je te pousse, par Rodriguez lui-même et son fils en aide de script. Alors pourquoi un tel résumé ? Eh bien parce qu'Hypnotique, énorme four hein, aux États-Unis lors de sa sortie en mai, est une nouvelle date dans sa filmographie sinistrée. Ben c'est simple, passer une quinzaine de minutes qui pourrait faire illusion si vous êtes un habitué des productions Millennium Film, absolument rien ne va. Le concept de base, hein, sorte de mélange de Scanners, hein, de David Cronenberg, de Fury de Brian De Palma, des bribes de la filmographie de Satoshi Kon vue à l'envers, alors vous bourrez, hein, et un peu de Paycheck de John Woo, déjà avec Ben Affleck, ben se mord la queue à chaque rebondissement qui intervient à intervalles réguliers dans tous les quarts d'heure à peu près, et jusque dans le générique de fin, oui oui.
Est-ce que vous connaissez un peu le principe de l'hypnose ?
L'hypnose ?
L'hypnose donne la possibilité d'influencer le cerveau. Un bruit. Une voix.
Du feu.
Un regard. C'est comme ça qu'ils s'y prennent pour vous faire croire à une version du monde qui n'existe pas.
Alors bien malin sera celui qui comprendra la logique d'un scénario abscon et dont la mise en image copie par moment Inception de Christopher Nolan, lui-même pompeur des chefs-d'œuvre de Satoshi Kon évoqué un petit peu plus tôt. Mais le plus improbable, car oui, c'est possible, reste une direction d'acteur comme d'habitude aléatoire, mais qui arrive probablement à offrir la pire prestation de la carrière de Ben Affleck, ce qui est peu dire hein, si vous avez vu Pearl Harbor ou Daredevil, et qui a la même expression lorsqu'il songe à sa fille kidnappée ou quand il regarde un moniteur d'écran aussi vite que ses yeux. Alors au milieu de ce naufrage intégral, hein, surnage comme il peut, hein, bah, le toujours impérial William Fichtner, hein, qui a quand même un rôle de méchant bien moins rigolo que dans Helldriver où il pouvait cabotiner plus. Alors Hypnotique, quelque part, bah, mérite bien son nom, tant le résultat est une épreuve pour vos neurones, mais il serait quand même dommage de s'en passer, car ce n'est quand même pas tous les jours hein, qu'on entre dans une salle pour voir un thriller fantastique et qu'on en ressort en ayant vu une comédie.
Voilà, donc vous pouvez faire le choix d'aller voir Hypnotique en salle depuis le 23 août ou de préférer la Palme d'Or avec laquelle nous avons commencé cette émission.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Ça s'impose.
Mais pour quelle raison ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Je ne connais pas la réponse moi-même.
Comme vous êtes bizarre.
Oui.
C'est difficile de répondre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine pour parler de films, et on parlera notamment eh bien, d'un film qui était en compétition à Cannes, Banel et Adama, et puis toi tu reviens avec la compositrice.
Ah oui, toujours, on finira sur Shirley Walker.
À la semaine prochaine.